En guise de conclusion, c'est le moment de conclure, pas simple, mais je me prête à cet exercice périlleux imposé par mon éditrice. Tentons d'être méthodique, opérons étape par étape. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce que vous avez dû apprendre au cours de ces quelques heures d'écoute que nous avons passées ensemble. Premièrement, on a vu que l'analyse économique doit se faire au niveau macro. Vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement d'un moteur économique en raisonnant comme un bon père de famille qui cherche à mettre de côté tous les mois. Au niveau macro, les revenus sont rigoureusement égaux aux dépenses, car ce sont les dépenses qui permettent les revenus. En d'autres termes, les bénéfices monétaires des uns viennent toujours des déficits monétaires des autres. Deuxièmement, nous avons vu que la monnaie que nous utilisons, la monnaie scripturale, est en réalité créée et détruite par les crédits bancaires et leur remboursement. Les banques de dépôt font des promesses de mise à disposition de billets, les crédits, en échange d'une promesse de remboursement, le contrat de prêt, ce qui crée la monnaie. L'annulation de la promesse de remboursement, le remboursement du prêt, nécessite l'annulation d'une promesse de mise à disposition de billets équivalentes, ce qui détruit la monnaie. Autrement dit, la quantité de monnaie fluctue constamment au gré des crédits et de leur remboursement. Pour que la masse monétaire augmente, ce qui semble être une bonne idée si on souhaite permettre plus d'échanges et plus de revenus, il faut plus de nouveaux crédits que de remboursements. Ainsi, une économie qui se concentre sur le remboursement de sa dette bancaire, qu'elle le fasse au niveau de l'État, des particuliers ou des entreprises, est-elle une économie qui court à sa perte, ce qui va à rebrousse-poil de tout ce que l'on entend, comme de tous nos réflexes micro de bon père de famille. Troisièmement, l'objectif de la création monétaire est de permettre la création de richesses. En effet, tout projet doit d'abord être financé avant de pouvoir aboutir. La création monétaire précède donc toujours la création de richesses. Les crédits bancaires sont en quelque sorte des paris sur l'avenir. Les banquiers qui créent la monnaie espèrent que cet acte permettra une création de richesses dans le futur. Quatrièmement, on entend par richesse tout ce qui se mesure par le biais du PIB. Cet indicateur se calcule de trois manières. Par le biais de la somme des dépenses de consommation finale et d'investissement, par le biais de la somme des revenus ainsi que par celui de la somme des valeurs ajoutées. Le PIB enregistre uniquement les nouvelles richesses créées chaque année. Il n'est donc pas une mesure du stock de richesses disponibles et mélange allègrement les richesses nécessaires, énergie, matières premières, santé, éducation, entretien des richesses existantes, avec tout le reste. Une baisse du PIB, si elle correspond toujours à une baisse des revenus, donc du pouvoir d'achat, ne correspond donc pas nécessairement à une baisse de la production des richesses nécessaires au maintien de notre niveau de vie. Cinquièmement, le PIB est un indicateur excessivement incomplet. Il peut raconter des histoires très différentes en fonction de la mesure arbitraire de l'inflation. Il ne valorise les richesses non marchandes que par le biais de taxes et de cotisations, si bien que les oublis sont nombreux, environnement et services gratuits. Il n'a aucune morale et il enregistre les bénéfices comptables, gains associés à des variations de prix, alors que ceux-ci ne correspondent à rien de réel. C'est d'ailleurs pour cela que les marchés financiers et immobiliers ne peuvent pas être considérés comme des jeux à somme nulle. Les gains comptables n'ont pas besoin de venir d'une perte comptable, contrairement aux gains monétaires, qui doivent toujours venir d'une dépense. En bref, la croissance économique telle que mesurée par le PIB est une forme de croissance très étrange, que tout le monde ne définirait pas nécessairement comme un enrichissement. Cependant, la baisse du PIB est toujours associée à une baisse des dépenses, donc des revenus, donc de la production. Les trois mesures du PIB. Ce qui provoque du chômage, car les entreprises licencient quand leurs revenus diminuent. Et comme une grande partie de la population ne peut consommer que grâce au versement d'un salaire, la baisse du PIB, quand bien même les richesses réellement nécessaires au maintien du niveau de vie de la population sont toujours produites, empêche les chômeurs de continuer d'accéder à ces richesses. C'est ce que l'on appelle une crise économique. Sixièmement, les crises économiques peuvent prendre deux formes. La crise de la demande, la baisse des dépenses, provoque un ralentissement de la production alors que les usines pourraient tout à fait continuer de produire. Et la crise de l'offre, une tempête, un incendie, une guerre, un manque d'énergie, un manque de ressources, empêche les usines de produire. Les premières sont causées par des crises financières. Une bulle finit par éclater parce que les revenus sur le marché du neuf sont beaucoup trop bas par rapport aux prix sur le marché de l'occasion. Et par des inégalités de revenus. Ceux qui gagnent le moins n'arrivent plus ou ne veulent plus s'endetter pour participer aux dépenses. Dans les deux cas, ces crises sont sous notre contrôle car elles sont liées à des règles de fonctionnement que les gouvernements ont choisies et qu'ils peuvent modifier. Hausse du salaire minimum, création d'un salaire maximum, contrôle des mouvements de capitaux, contrôle des prix, autorisation des déficits publics, remaniement des règles d'accès à la création monétaire. Seul notre manque d'imagination et nos idéologies politiques limitent notre pouvoir de sortie de crise. Nous pouvons donc, a priori, régler les problèmes causés par les crises de la demande en modifiant les contraintes réglementaires que nous avons nous-mêmes créées. En revanche, les crises de l'offre nous placent en face de contraintes physiques que nous pouvons potentiellement contourner, mais pas modifier. Septièmement, l'inflation est un mécanisme complexe qu'il faut arrêter de craindre comme une bête noire. La création monétaire et les déficits publics ne causent pas systématiquement l'inflation. Preuve en est l'histoire toute récente, la quantité de monnaie en circulation dans la zone euro, sans aucun contrôle réel de la part de la Banque centrale, puisque, nous l'avons démontré, la théorie des réserves fractionnaires est fausse, a été multipliée par 5 en 20 ans, alors que les prix n'ont été multipliés que par 1,4 seulement. Huitièmement, les marchés financiers sont essentiellement une grosse usine à gaz spéculative. Si leur rôle est avant tout de transmettre l'épargne des agents économiques qui en ont vers ceux qui en ont besoin, les données suggèrent qu'ils aspirent beaucoup plus de monnaie qu'ils n'en régurgitent. La faute à une rationalité financière qui poursuit toutes les méthodes de gain sans se limiter à l'estimation de la véritable valeur économique, potentiel de création de richesses futures et risques divers, des produits financiers. Ainsi, les variations de prix provoquent des gains enregistrés comme des bénéfices et utilisés comme base pour verser des revenus, qui sont totalement déconnectés des services rendus par les marchés financiers. L'analyse du marché de l'immobilier aboutit à la même conclusion. Les gains basés sur les variations de prix n'ont aucun lien avec une quelconque création de richesse. Le monde financier a divorcé du réel pour pouvoir s'enrichir tranquillement sur son dos, mais vient réclamer de l'aide à ce dernier dès qu'il attrape un petit rhume. Notre moteur économique est donc complexe et chaotique. Non seulement toutes les variables dépendent plus ou moins les unes des autres, mais en plus, nos outils de mesure sont inadaptés. En effet, la graduation ultime de mesure de l'activité économique est le prix. Or, en plus de les voir varier constamment les uns par rapport aux autres, ce qui fausse toutes les mesures, nous ne savons même pas clairement expliquer comment les prix se forment. L'identification des causes de leur fixation et des conséquences qu'elles génèrent est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Bref, notre compréhension de la machine économique est limitée. Pourtant, le système est relativement stable. Les crises économiques ne se succèdent pas tous les 3 mois. Dans l'ensemble, la machine fonctionne à peu près correctement. Or, comme cette stabilité n'est pas due à un projet parfaitement pensé et froidement mis en place par des chercheurs en économie et autres politiciens, la question se pose. Comment se fait-il que nous tâtonnions dans la brume en trébuchant de temps en temps sans jamais tomber dans une véritable crevasse? Certains interprètent cette bonne fortune en avançant que les règles du capitalisme sont tout simplement les meilleures qui soient. On conviendra aisément, devant le peu de preuves dont nous disposons pour défendre cette thèse, que nous avons là un exemple magistral de croyance politique, et non l'expression d'une conviction scientifique. Pour ma part, je n'adhère pas à cette forme d'idolâtrie qui voit dans le capitalisme un moindre mal pour organiser les échanges mondiaux. Si je devais émettre un avis, je dirais que cette stabilité a beaucoup plus à voir avec notre capacité à nous adapter à n'importe quelle organisation. L'humanité a cette qualité de pouvoir s'adapter à presque tout, et c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse, en l'occurrence, puisqu'elle l'entraîne à faire perdurer un système qui détruit jusqu'à son environnement. Au regard de l'histoire, rappelons simplement que le capitalisme est une organisation récente. Il n'a qu'un peu plus de 200 ans. En comparaison, l'Empire romain a fonctionné pendant 1000 ans avec un moteur économique complètement différent du nôtre. Mon idée est donc la suivante. Il ne faut surtout pas croire que rien ne peut changer, que les règles sont gravées dans le marbre, que les économistes comprennent l'économie au même titre que les physiciens comprennent les lois de la nature, que le capitalisme est LA seule forme d'organisation viable, que les marchés financiers sont incontournables, que les inégalités ne peuvent pas être réduites, que les services publics doivent être privatisés, que l'État ne peut pas fonctionner avec du déficit, que la mondialisation est inévitable, etc. Tout est transformable et modifiable. Avoir une idée du fonctionnement actuel du moteur économique permet une chose essentielle : repérer les injustices provoquées par cette mécanique, classer ces dernières par ordre d'importance et, à partir de cette analyse, nous forger une opinion politique quant aux règles que nous souhaiterions voir modifiées. Et tout cela en n'oubliant pas que, si les règles économiques sont toutes modifiables, les lois de la physique, elles, ne le sont pas. Le monde que nous avons à imaginer pour garantir notre futur doit absolument tenir compte des contraintes naturelles sur lesquelles nous n'avons aucune emprise et que nous avons trop longtemps ignoré, sans quoi il ne restera qu'un rêve inatteignable. Quelques heures d'écoute plus tard, vous voilà, je l'espère, un peu plus économiste et financier qu'auparavant. Quoi que vous décidiez de faire de ces nouvelles connaissances, parce que je pars du principe que je vous ai appris un truc ou deux, un peu présomptueux le gars, j'espère que vous ne les laisserez pas prendre la poussière dans un coin de votre tête. Notre système économique est rempli de problèmes qu'il nous faut résoudre. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette reconfiguration.